ça peut se passer comme ça aussi.
Mais c'est chouette quand même.
Ah, c'est chouette, ouais, c'est chouette. Ah ouais. Quand alors... tu vois que les gens rentrent, ils sont contents d'écouter une série de chansons de Léo Ferré, bah, c'est super, super agréable.
Et puis éventuellement de participer un tout petit peu sur le moment où ils peuvent participer.
Voilà, parce qu'ils sont,
je note,
bah, parce qu'ils sont chauds.
Alors le concert au Danube, c'est celui que j'avais raté.
Oui.
Et, mais, je note, mais je note quand même qu'il est dans un quartier prolétaire et avec des gens voilà, qui. Est-ce que. Bon, c'est une petite remarque que je me fais, mais est-ce qu'on a plus, on est plus enclin à participer, à chanter dans un concert dans les quartiers populaires, j'aime pas ce mot-là, mais bon, hein, voilà, que plutôt dans les quartiers un peu guindés, comme Studio Raspail, parce que je me souviens pas d'avoir... Bon, au Studio Raspail, il y avait pas cet extra, si, peut-être
Non, il y avait pas cet extra, ouais. au Studio Raspail.
Mais je me souviens, je vois pas les gens chanter...
Alors, tu sais, je crois pas que ce soit...
Bon.
Que ce soit lié à ça.
Bon.
Ça peut être lié à des salles qui sont... qui favorisent ou pas
L'interaction.
L'interaction.
Ouais, d'accord.
Le studio Raspail, c'est un ancien cinéma, c'est une belle salle, et il est en travaux, et ça va certainement être fait, ça va être magnifique. Mais c'est un peu comme une salle de théâtre. Les musiciens sont un peu loin, et le public est un peu dans une fosse.
Ouais,
et donc, il y a une espèce de distance entre le public et la salle. Je sais par expérience, pour avoir fait des dizaines de concerts, mais ça doit, c'est sans doute ça, au Studio Raspail, que l'ambiance, pour que l'ambiance soit vraiment très très bonne au Studio Raspail, il faut que la salle soit bondée, complètement bondée, qu'il n'y ait pas un siège de libre. Et là, tu sens vraiment le public. Sinon, il y a toujours une espèce de distance. C'est une salle comme ça, dans laquelle la distance est difficile à rompre. Le Palace Danube Café, c'est le contraire. Il n'y a pas vraiment de scène. Tu es presque... à côté des gens, quoi, comme là, toi, on est tous les deux, et la salle est tout en longueur, c'est un lieu de convivialité, de rencontre.
Oui, qui favorise beaucoup
et
plus, ouais.
Qui favorise totalement ça. Au mois de novembre, c'était très bien. Il y avait, je pense, pas énormément de gens du quartier qui s'étaient déplacés.
Ah, bon, d'accord.
Il y avait des gens qui j'avais fait la pub, qui me connaissaient, ou qui me connaissaient moi, mais connaissaient pas mes chansons, donc ils venaient de découvrir. Il y avait des gens qui... Il y avait du public qui me connaissait depuis très longtemps, et il y avait des gens qui passaient par hasard. Il y avait même des gens qui venaient de province, et parmi ceux qui chantaient, des gens qui étaient là, mais tout à fait par hasard, qui n'étaient pas vraiment du quartier. Donc, voilà, je pense que le lieu amène...
Plus que le type de population.
Plus que le type de population, d'accord. Bon. Voilà. Mais ça peut certainement jouer dans certains cas, hein, mais en tout cas, l'aspect du lieu aussi est important.
Tiens, justement, puisque on est en train de parler du Danube Café, je voudrais dire que vendredi prochain, on va l'annoncer tout à l'heure, hein, de manière un peu plus sérieuse, mais après-demain, vendredi 9 juin, donc on te retrouvera justement au Danube Palace Café, au 12 rue de la Solidarité, dans le 19e arrondissement de Paris, vendredi, à partir de 20h30, vendredi le 9 juin. C'est au métro Danube et au métro Ourcq également, et vous avez un numéro de téléphone pour réserver, le 01 40 05 11 76. Je le dis un peu dans la hâte, mais ne vous inquiétez pas, tous les détails seront renseignés sur le blog de l'émission, bien évidemment, aucun souci. Oui, alors je parlais de William et de Philippe qui te rejoignent sur les compositions, parce que j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton travail de composition. On en a déjà parlé durant cette émission, donc peut-être qu'on va faire un peu de redite, hein, c'est pas impossible dans ce moment-là. L'un des grands traits de ton travail ferréen, c'est quand même la mise en musique de certains textes qui n'étaient pas encore mis en musique par Léo, hein. Il y en a un paquet dans le recueil, dans le livre qui s'appelle Les Chants de la Fureur. Il y a un certain nombre de textes comme ça que les gens qui ne connaissent pas encore vraiment Léo peuvent aller consulter, et ils et elles se rendront compte à quel point il y a un grand nombre de textes qui n'ont pas été mis en musique par Léo. Alors certains ne s'y prêtent pas du tout parce qu'ils sont en prose et que ce sont de longs textes sur la création musicale, sur l'anarchie, sur la société, sur lui-même, sur ce que tu veux, qui sont pas propices à être mis en musique. Mais en revanche, il y en a d'autres qui sont vraiment, pour le coup, propices à être mis en musique. Et parmi ces textes, tu t'es penché sur certains, et tu as mis en musique certains de ces textes. On peut peut-être en reparler un petit peu, parce que je trouve que c'est méritoire, dans le sens où, moi je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup à aller chercher sur le continent ferréen, et notamment parmi ces textes qui n'ont pas encore été mis en musique. Et donc, voilà, je voudrais bien qu'on en reparle un petit peu, si tu veux bien.
Oui, bien sûr.
Même s'il y aura un peu de redites, quoi.
Avec plaisir. On en a parlé, mais il y a déjà un certain temps.
Ouais, un certain temps.
Donc, pourquoi pas en redire deux mots. Déjà, redire que le bouquin Les Chants de la Fureur, je pense que c'est le bouquin de référence absolu à avoir si on aime Léo Ferré. Parce que même si on connaît très bien Léo Ferré, il y a peut-être l'intégralité, ou en tout cas pas loin, des textes qu'a écrit Léo Ferré, y compris son roman Benoît Misère. Donc il y a tous les styles, il y a bien sûr les chansons qu'on connaît, toutes les chansons qu'il a écrites qui sont dans les albums, et puis donc beaucoup de textes qui étaient restés sans musique connue, puisque il peut y avoir dans les archives aussi des choses qu'on découvrira, alors peut-être l'année prochaine dans le coffret. Et ça m'a amené à une petite déconvenue, parce que moi je suis parti sur des textes que je croyais tout à fait inédit, c'est-à-dire sans musique.
Vierge
de musique de Léo, parce que oui. Je suis pas le premier à avoir fait cet exercice, donc d'autres compositeurs avaient mis des musiques sur certains des titres, y compris des titres que moi j'ai sélectionnés, parce que, encore une fois, je fonctionne toujours au coup de cœur, c'est-à-dire que si j'aime un texte, j'embarque dans ma sélection, même si Noir Désir l'a mis en musique. Tu vois,
par exemple,
c'est pas un problème.
Tu penses à Désarmes, qui a été mis en musique par le groupe Noir Désir.
Voilà, c'était le cas le plus...
Et que tu as mis en musique aussi.
Oui, qui était le plus connu. Après, il y a d'autres artistes comme Infosso qui ont fait un super travail. J'ai pris aussi quelques textes qui étaient mis en musique par Yves Rousseau.
Le plus beau concerto, notamment, je crois.
Le plus beau concerto, Tête à tête. Où va cet univers ?
Oui, où va cet univers ?
Je crois, je pense qu'il a beaucoup tapé dans le recueil de 1956 pour Edouard Papier. Et où c'est vrai, Léo a lui-même beaucoup été cherché tout au long de sa carrière pour mettre en musique pour faire des chansons à partir de ce recueil. Notamment dans Amour Anarchie et voilà, dans les années 70 et avant. Donc, je suis parti de ce recueil, hein, Les Chants de la Fureur, avec l'idée justement d'essayer de trouver quelques textes. Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est quand on s'est vu la première fois pour parler du disque Légende que tu m'as posé la question. J'avais déjà dit, mais je pense que ça mérite d'être dit. Merci d'avoue.
Avec plaisir.
J'avais découvert ce plaisir de mettre en musique des poèmes, et tu m'as demandé pourquoi pas mettre du Léo Ferré. Sur le coup, je me suis dit, mais Léo Ferré n'a pas besoin de moi. Hein, il sait faire des musiques, il a mis en musique ce qu'il jugeait intéressant.
Ouais.
Et puis après, j'ai découvert Les Chants de la Fureur, j'étais passé à côté. Et donc, en ayant ce bouquin, et en me rappelant aussi du travail qu'avait fait Yves Rousseau notamment, et puis avec en tête ce que tu m'avais dit, je me suis dit, je vais reprendre le livre et je vais tout éplucher de la première page à la dernière,
ce qui est
pour voir quels
hein,
sont
travail.
Ces textes qui... j'ai fait ça vraiment en diagonale, c'est-à-dire
oui,
ça je connais, enfin ça, il y a une musique, ça, est-ce que ça me plaît? Ah, puis dès qu'il y a un truc qui... Non, ça me parle pas, voilà. Et j'ai fait comme ça une sélection de, je pense, 25 textes, et que j'ai mis de côté pour voir ce que ça allait m'inspirer.
Dès la lecture, t'as une sorte de sélection qui s'opère.
Oui, et j'essaye de le faire très vite. Je crois beaucoup à l'instinct. Alors ça rejoint un petit peu ce que disait Léo quand il mettait en musique les poètes, où il fallait que ça aille vite, c'était tout immédiat ou pas. Mais c'est vrai que pour avoir mis en musique des textes, même avant de mettre les poètes, j'avais déjà travaillé avec d'autres artistes et mis en musique des textes de personnes qui m'amenaient des textes. En général, la première lecture, le truc est immédiat. Tout de suite, on sent une émotion, on sent que oui, hop, il se passe un truc, et quand on va avoir un instrument, à un moment donné, on va trouver une musique qui est dans le feeling, qui correspond au texte, ou ça parle pas du tout.
Et ça, tu le ressentais la première lecture ?
Oui. Ouais. Oui. La première passe, parce que le bouquin est énorme, donc c'est fait vraiment très rapidement. C'est-à-dire, ah oui, là, il y a un truc, je prends, je verrai plus tard. Il y a des textes comme ça que j'ai embarqué. J'avais même, c'était avant d'écouter l'émission sur la vie d'artiste, qui ont mis en musique Métamec et qui ont...
Ah oui,
j'avais pris Métamec. Voilà, comme ça, parce que Je m'étais dit, ça pourrait être intéressant peut-être de le jouer autrement, avec une mélodie. Bon, depuis je me suis dit que ça ne serait pas fonctionné, puisque maintenant je connais le point de vue de Mathieu Ferré, que je salue au passage, hein, ouais. Et qui est de, lui considère que quand Léo a mis une musique sur un texte,
c'est abouti, c'est bon.
C'est abouti, ouais. Et on n'a pas à revenir et à proposer. Et
ça peut se comprendre.
Ce qui s'entend tout à fait.
Pourquoi pas.
Donc, en l'occurrence, voilà, Metamec, il y a une version de Léo. Et il y a déjà beaucoup d'autres textes à travailler.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà, j'avais ma sélection de textes et je suis parti là-dessus.
Le coup auprès du chêne et du courroux, comme un drapeau qui flotte et brille pour la raison et la patrie, comme un oiseau qui crie là-bas le devenir du chasseur là. Comme un devoir qui s'évertue à ne trouver que la vertu. Comme un silence dans le cœur quand agonise le bonheur. Comme un palais qui se détruit sous l'érosion. Comme un prêtre qui va pesant dans les sentiers du dénuement, comme un chagrin qui n'en peut plus, je suis un homme et rien de plus. Comme un roseau qui tient le coup auprès du chêne et du courroux, comme un oiseau qui crie là-bas le devenir du chasseur là, comme un drapeau qui flotte et brille. Comme un silence dans le cœur quand agonise le bonheur, comme un palais qui se détruit sous l'érosion et sous l'ennui, comme un chagrin qui n'en peut plus, je suis un homme. Et rien de plus.
Jean-Baptiste Foulquier dans le Ferré Club sur Radio Libertaire.
Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le rapport, la connivence entre le texte et toi va se faire très rapidement, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a des textes, par exemple, où tu t'es dit, ah, celui-là, je sais pas, peut-être, et finalement, t'es revenu dessus, et ça a bien collé, in fine.
Alors, comme c'est un bouquin énorme, et que j'ai fait le premier jet très vite, c'est vrai que j'ai loupé 2-3 trucs. J'ai fait le premier travail de composition, je crois que c'était en 2021, si je dis pas de bêtises, et donc j'avais déjà un gros corpus, de lequel est sorti, je crois, une quinzaine de titres. L'année suivante, il me restait des titres que j'avais pas mis en musique la première année, j'en ai sorti deux, dont celui qu'on a écouté
Tristesse de Paris,
tout à l'heure, ouais. Tristesse de Paris. Et j'ai eu envie, l'année dernière, de me dire, moi, je ne vais pas partir en vacances, parce que je fais souvent ça en vacances, il faut un peu de temps, il faut être dans une disposition d'esprit, il faut... y a quelque chose aussi avec la musique et la composition, là, c'est un petit aparté, mais pour moi, quelque chose que je ressens qui est en termes de transfert d'énergie. C'est-à-dire que si jamais t'es complètement crevé, si t'es malade, si t'es machin, ça vaut pas le coup de se mettre au piano ou à la guitare et d'espérer sortir une musique à tomber. Enfin, tout peut arriver. Mais disons que mon expérience personnelle, c'est que une musique qui sort, qui jaillit, une mélodie, quelque chose de vraiment d'intéressant, ça va être un moment où il y a de l'énergie. Tu vois, ça va être et donc faut être en forme. Toutes les compos de Léo, je les ai faites avec une disponibilité d'esprit et une espèce de légèreté, je dirais, tu vois, et d'énergie. Et donc, j'ai fait exprès. Et les poèmes que j'avais fait l'année d'avant, enfin, ou 2 ans avant, quand j'avais composé les poèmes, c'était pareil. J'étais dans ce genre de période un peu plus calme.
Les poèmes, c'est tu penses à Légende ?
Je pense à Légende, oui. Où je pouvais... comme ça, avoir
être
un peu
libre,
plus de temps,
ouais,
plus d'énergie,
sûr, ouais.
Et partir, être en vacances, être ailleurs, être au vert, et puis voilà, trouver des moments de calme, où j'allais pouvoir me pencher dessus. Et là, les choses se faisaient assez vite, et il y avait de l'énergie qui veut pas dire que tu fais des trucs punk à 3000 à l'heure, mais que tu as quelque chose qui sort, quoi. Ça
ouais.
peut être une émotion triste, hein, ça peut être. Mais pour moi, voilà, la musique, la création a besoin de cette énergie. Et donc, y a des moments, avec l'expérience, où tu sais que c'est plus favorable de te mettre dans telle condition pour chercher.
Bien
sûr. Et pour trouver.
Et avec Léo, ça s'est fait en Corse, en partie.
Oui, ça s'est beaucoup fait en Corse.
Donc t'es parti...
Alors j'avais juste commencé avant de partir en vacances, j'avais une période un peu plus calme,
ouais.
J'avais commencé au piano, et donc il y a des morceaux, il y a les chants de la fureur, par exemple, que j'ai fait chez moi au piano, je crois que c'est Où va cet univers, le plus beau concerto, ça c'est des choses que j'ai fait au piano, donc chez moi, parce que je pars pas en vacances avec un piano.
Non, c'est un peu difficile.
C'est un peu difficile, et ça explique le fait que la plupart des compos, en fait, ont été écrite à la guitare, et que donc la partie composition, enfin dans le spectacle, elle est avec des guitares, et que la partie piano,
cohérent.
C'est beaucoup des reprises. Alors, pas que, parce qu'il y en a quand même quelques-unes que j'ai écrites au piano. Il y en a une aussi que j'avais écrite à la guitare et que j'ai transposée au piano après, parce que ça rendait mieux. Mais voilà, je suis parti en vacances, et 3 années de suite, en Corse, avec ma petite guitare, j'ai fait les compos de Léo.
Mais c'est vrai que ça se prête plus facilement, le voyage se prête, la guitare se prête plus facilement au voyage
tout à fait,
que le piano.
Ouais.
Donc effectivement, on comprend que ce soit l'instrument de base. Si tu as besoin d'une période, d'une certaine manière, de retrait, pas de retraite chez les moines, mais une certaine période d'éloignement vis-à-vis des injonctions sociales, on va dire, pour
oui,
résumer de
pouvoir
manière,
penser,
voilà, de pouvoir penser uniquement à ta composition, voilà,
puis...
voilà. Bah c'est vrai que bon, c'est bien souvent en vacances, et en vacances, c'est plus facile d'emmener la guitare que le piano Steinway du Forum Léo Ferré. On
tout
est d'accord.
Fait,
donc
fait.
Effectivement, c'est cohérent là-dessus, quoi. Et alors, comment ça se passe un petit peu? Alors, parce que je vais le dire, tu m'as ramené aujourd'hui un document assez intéressant. Tu m'as ramené les premières ébauches, en fait, en quelque sorte, de tes compos.
Voilà, alors je pense que tous les artistes font ça, c'est-à-dire tous les gens qui écrivent ont un calepin.
Ah oui, mais on connaît pas nous. Moi, je suis
stylo.
Un animateur de radio, et je suis curieux de connaître la méthode de travail des artistes.
Et là, quand tu crée, alors je pense que c'est vraiment valable pour tous les métiers de création, tu as toujours un crayon à portée de main pour noter ton idée, et quand tu fais de la musique, tu as, alors aujourd'hui c'est les smartphones, mais sinon c'était les appareils pour enregistrer quand tu as une idée, et encore avant c'était la feuille de papier aussi, avec la partition vierge où tu pouvais noter ta mélodie, mais voilà, tu as toujours quelque chose de prêt à noter pour l'idée qui vient quand tu te brosses les dents, parce que voilà, t'as pas prévu, mais tu penses à quelque chose et tu te dis, tiens, ça ferait une chanson, ça ferait un bon titre, ça ferait pour aller plus loin dans l'aparté, tu vois, j'ai composé ces dernières années plusieurs chansons en rêvant. la nuit,
ah ouais.
Je rêve d'un morceau. Et dans le rêve, il y a une voix qui te dit, attends, cette musique, mais je la connais pas. Toi, dans tes rêves, il se passe des choses, des films, t'es un personnage, t'es quelqu'un d'autre des fois, ou tu assistes à quelque chose, t'entends une musique, et d'un seul coup, tu sors un peu du rêve, tu te dis, mais attends, ça c'est un truc que tu connais pas, c'est nouveau, t'es en train de le composer, réveille-toi. Et là, tu te réveilles. Et là, t'as pas envie de te lever, c'est 3h du mat, 4h du mat, t'es complètement crevé, tu dois te lever tôt le matin, ton intérêt, c'est de te rendormir. Mais t'es auteur-compositeur, donc tu vas te lever et tu vas aller à l'autre bout de l'appartement, pas faire de bruit, et puis enregistrer ta petite idée.
Parce que ça vient à ce moment-là, donc
parce
faut que tu la saisisses.
Parce que, voilà, comme t'es auteur-compositeur, tu laisses pas passer un truc.
Bien sûr.
Et je pense que tu commences à être compositeur quand ça t'arrive. Sinon, t'es pas compositeur. Toi, moi, j'ai écrit un roman quand j'étais jeune. Je me rêve pas la nuit parce que j'ai rêvé à un scénario, à une scène de roman. Donc, je suis pas un romancier. Si j'étais un romancier, j'écrirais tout le temps des romans. Jusqu'à en rêver.
Voilà.
Et voilà, ça me ferait me lever la nuit. Ce qui me fait me lever la nuit, c'est des chansons parce que c'est une dynamique. J'écris des chansons tout le temps, et voilà, j'écris le plus souvent mes chansons à moi, paroles et musique, mais c'est quelque chose qui m'habite. Je suppose qu'un peintre, il va rêver, il va voir une peinture, il va voir un truc, il va dire, ça c'est... Je l'ai pas fait celle-là, faut que je me réveille, il faut que je le fasse.
Bien sûr. Mais on peut pas imaginer, si tu veux, que ça devienne en dormant comme ça, que ce soit en plein...
Il y a des choses très connues. Yesterday, des Beatles, Paul McCartney, l'a rêvé. Je pense que voilà, il faut être obsédé par le truc suffisamment pour que ça puisse venir. Et que, je veux dire, c'est la marque. Quand tu en rêves et que tu te réveilles, parce que dans ton rêve, tu t'es dit, attention, gars, là, ce que tu vois, ce que tu entends, c'est à
inédit,
personne, c'est à toi, là, faut que tu ailles le noter.
C'est en train de jaillir, quoi. C'est maintenant que ça se fait.
C'est en train de jaillir.
Ouais.
Et ça peut être parole et musique. J'ai en ligne pour les gens qui seraient curieux. J'ai mis une chanson qui m'est arrivée en rêve sur Serge Gainsbourg. J'étais en train de lire un bouquin sur
le Gainsbourg.
Le Gainsbourg, voilà.
Ouais.
J'ai eu l'idée de ce. Dans mon rêve, j'ai vu cette chanson, Gainsbourg en train de chanter cette chanson. Et je me suis dit, mais. Je la connais pas, cette chanson. C'est pas une chanson de Gainsbourg. Elle est en train de s'inventer, là. Et ça m'a réveillé, et j'ai été noter la chanson. Et je l'ai fini, bien sûr, réveillé. Donc ça, j'ai fait un petit clip. Et je te donnerai le lien.
Ouais, avec plaisir. Et ça a donné quoi, finalement, alors, au bout du compte? Une chanson de toi ou
Une chanson de moi, oui.
Mais,
sur Gainsbourg.
Ah, voilà, c'est ça.
Un hommage que j'ai pas prémédité, qui est venu comme ça, en rêvant. J'aurais pas pensé à faire un hommage à Gainsbourg. J'aime bien Gainsbourg, mais de là s'appelle le charme des gestes provocants.
D'accord.
Et c'était le titre de la chanson qui était chantée dans mon rêve. Parce que, imaginez, le charme des gestes provocants.
Oui.
C'est pas le titre qui te.
Non, c'est pas. Viens... Oui, c'est pas le truc le plus simple qui arrive comme ça.
Le plus simple qui arrive comme ça. Et c'est. Voilà.
Tu sens que ça a été alambiqué quelque part dans un coin et que ça a été maturé jusque dans ton rêve.
Et donc, je crois beaucoup à ce travail inconscient.
Ah, d'accord.
Et par rapport au choix des morceaux, ce qu'on venait à dire tout à l'heure, toi, c'est l'immédiateté. C'est qu'il y a une sorte d'instinct. Et lorsque j'ai mis en musique les morceaux, c'est finalement quand je les ai enregistrés de façon beaucoup plus précise, en home studio, où là tu as un rythme, tu sais, une rythmique, tu as le tac, le métronome, et t'es obligé et t'enregistres les choses de façon très carrée, parce que, voilà, et où tu dis le texte de façon à ce qu'on l'entende bien, tu affines les notes pour que ce soit parfait, ou en le chantant plusieurs fois, petit à petit, j'ai découvert des choses dans le texte, des subtilités, des choses, je suis vraiment rentré à l'intérieur. Mais le premier jet n'avait même pas besoin de rentrer dans ce niveau de précision.
Il y a
une sorte d'instinct qui suffit à trouver la bonne façon de... En tout cas, la façon qui, moi, est authentique pour aborder...
Te correspond
pour aborder tel ou tel texte.
Et ça se fait pas systématiquement au cours d'un rêve, quand même. Il y a des moments.
Non, non, non. Mais dire que voilà, je pense que quand on vient à rêver d'un tableau, ou,
oui.
tu es vraiment.
C'est que t'es habité.
C'est que t'es habité par le truc.
Ouais, clairement.
Et que là, du coup, tu peux te fier à ton instinct et tu peux essayer de faire des choses, de rechercher en fait une certaine fluidité. Toi, sans passer par des phases d'analyse.
Ouais,
donc le choix des textes, c'est ça. Je les ai choisis parce que ils me plaisaient, mais ils me plaisaient pas avec une analyse pointue.
Ouais, c'était instinctif.
C'était, je passais dessus. Je me disais, ah ouais, banco, je prends.
Ouais.
Et le deuxième processus qui est aussi instinctif, c'est de se dire, quand tu cherches des musiques, donc là aussi les musiciens souvent procèdent ainsi, c'est-à-dire qu'ils partent soit d'une idée de rythme, des fois ça peut être une mélodie qui arrive toute seule, et puis à ce moment-là on va chercher un instrument pour déterminer l'harmonie,
ouais.
Toi, pour s'accompagner, parce que t'as la mélodie toujours, qui est toujours ce fil horizontal dont je parlais tout à l'heure, et l'harmonie qui accompagne, qui donne le rythme, qui donne la pulsion, et qui soutient la voix, ou alors des fois tu peux avoir l'idée d'un groove, d'un rythme, toi, à partir d'un rythme de batterie, de choses comme ça, et puis ça te donne une pulsation qui te fait sortir une mélodie et un accompagnement. Ou alors, aussi beaucoup, ce que font les musiciens, c'est qu'ils jouent de l'instrument, et ils cherchent des suites harmoniques qui leur plaisent, qui vont convoquer de la puissance, de la rage, enfin une émotion, toi, de la tendresse, de la tristesse, de la mélancolie, tout ce que tu veux. Tu cherches sur ton instrument, en fait, à jouer quelque chose qui t'inspire. Et puis, dessus, que ça t'inspire une mélodie, que tu te mettes à chanter. Et alors là, ce travail-là, qui est le travail de base, je cherche une mélodie, une fois que tu sens quelque chose, c'est de te dire, ben là, j'ai mis des textes de Léo, là, sur la table, j'ai pas nâché à table avec des textes de Léo, et hop, celui-là, que je connais pas par cœur, mais je l'ai suffisamment lu pour savoir un peu l'atmosphère qu'il y a dans les morceaux. Là, je suis en train de jouer une bossa, ça, c'est quoi? C'est le poète englué. Ça ne va pas faire une bossa. Ça, j'ai un petit truc qui s'appelle l'araignée. Hop. Et ah, bah, ça colle bien. Toi, c'est ça. C'est ce travail de qui doit se faire.
De jonction entre les deux.
De
quoi,
jonction qui doit être immédiate pour que ce soit.
Ouais.
Ça colle ou ça colle pas, quoi.
Bien sûr. On pourrait prendre un exemple, justement, avec les documents que tu m'as rapportés, là. On pourrait prendre un exemple d'une de ces chansons comme ça, où on écouterait ton travail préliminaire, si tu veux bien.
Si tu veux, ou un petit bout du travail préliminaire. Alors, ouais. Par là, je parlais du poète englué.
Alors, attends, ça fait quoi? Ma poète englué, au miel des êtres, à l'âge, je salue.
Là, c'est un exemple où j'étais dans une session comme ça de recherche de musique. Et puis, comme toujours, les musiciens, tu vois, quand ils ont un instrument à portée de main.
Toi, c'est un peu... En plus, tu l'as là aujourd'hui. Ouais.
Imaginons que j'ai un instrument à portée de main.
Genre une guitare, tu veux dire?
Ouais, genre une guitare. Le musicien, il va toujours faire du bruit. C'est très bruyant, un musicien. Je sais pas si vous avez un musicien à côté de chez vous. C'est assez pénible. C'est par exemple pour répétition, tu vois, quand on a un break entre deux chansons, t'as toujours les musiciens qui sont chacun sur leur instrument en train de s'amuser à jouer un petit truc. C'est assez pénible. Et donc je me reposais entre guillemets après avoir fait une impro, et je jouais sur une corde à vide, et j'ai joué une petite séquence de notes. Sur un rythme un peu énervé, et du coup j'ai trouvé que cette séquence donnait une pulsation intéressante, un peu comme une basse qui jouerait un morceau un peu rock, et j'avais le texte, le poète englué pas très loin, je l'ai mis, et je me lance à chanter le texte, les poètes englués, puis ça colle, alors après je continue et je mets les accords.
Oh, super, ouais, chouette.
Et ça arrive parce que... quand t'as la pêche, quand t'as l'énergie, quand t'es à fond dedans.
Tu veux dire, par exemple, quand ton chef au boulot t'a dit il va falloir faire ci et non pas ça, c'est difficile de rentrer chez soi et puis d'avoir l'esprit libre et puis d'attaquer la mélodie.
Par exemple. Alors, en ce moment, je ne plains pas, j'ai un chef qui n'est pas du tout comme ça. L'idée, c'est ça.
Clairement.
Quand t'es dans le quotidien, dans les trucs, t'as pas forcément l'énergie pour. Ou alors tu vas l'avoir à un moment donné, tu vas être énervé, tu vas te mettre. Tu vas sortir un truc.
Ouais, bien sûr. Parce que le chef t'aura dit, ouais, il faut faire ci, pas ça.
Mais.
Plutôt que de l'insulter, tu prends la mélodie, tu fais un truc.
Que ça colle sur une musique de Léo, il faut avoir préparé le terrain, c'est-à-dire qu'il faut avoir un panel de texte devant les yeux pour.
Hop, bien sûr.
Là, mon truc, ça correspond à ça.
Bien sûr.
Ça va. J'essaye dessus.
Et donc à partir de ce moment-là, il faut on quitte la ligne, on va donner un peu d'épaisseur, quoi.
D'épaisseur, ouais.
Ça se fait à partir de ce moment-là, en fait, quelque part. Dans le moment où tu fais rencontrer le texte avec ton ébauche de mélodie.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai mon instrument qui m'accompagne et je me lance sur la mélodie que je pressens, quoi. Et aussi bien, tu peux sortir à une mélodie qui n'a aucun intérêt, tu vois, ça peut...
Bien sûr, ouais.
Mais là, quand les bonnes conditions sont réunies, en général, ça...
Ça colle ?
Ça colle.
Bon, très bien, ouais. Que tu as ta petite mélodie comme ça, ton travail de composition, il se fait à partir de là, quoi.
Oui, alors, suivant les fois, la première impro, parce que ce qu'on a écouté, c'est vraiment la toute première impro, quand l'idée surgit, hein, c'est il y a le néant, d'abord, il n'y a rien, et puis voilà, il y a l'idée qui apparaît. Et bien sûr, le travail derrière, c'est de réécouter tous ces enregistrements de travail que je fais, et de garder ce qui m'apparaît intéressant, et de laisser tomber le reste. Donc mon travail habituel, quand je fais des chansons, c'est de... L'objectif que je me donne, j'essaye de me discipliner. Pour se discipliner, il faut des repères. Donc, ce que j'ai trouvé dans le temps pour évoluer, pour progresser, pour travailler, c'est de finir deux chansons par mois, 25 par an. Voilà, je m'oblige parce que j'ai remarqué que si je m'obligeais pas, il y a toujours un moment dans la vie
où il y a
des choses qui t'empêchent de consacrer du temps à ce que t'aimes. Mmh. Et à un moment donné, ça peut aller tellement loin que tu arrêtes, quoi. Enfin, tu perds l'énergie. Donc ça, ma technique, c'est de m'obliger à finaliser deux morceaux. Quand je dis finaliser, c'est que je dépose à la SACEM deux morceaux enregistrés, maquettés chez moi dans mon home studio, alors plus ou moins bien, mais quand même toujours avec une certaine orchestration, voilà, un certain travail que j'ai tendance à faire de plus en plus élaboré dans le temps. Mmh. Mais l'idée d'origine peut remonter à X temps et représenter un travail de plusieurs mois. Et d'un côté, j'ai des idées de texte, de l'autre côté, j'ai plein d'idées de musique, et puis à un moment donné, je me décide, telle musique, là, faut trouver ce que ça raconte.
Il faut raconter
ce qu'il y a derrière. Ouais. Et ça peut être un travail d'aller-retour, de ping-pong qui est assez compliqué, enfin qui demande quand même de s'essorer les neurones. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de confort. Quand on a un texte qui est déjà magnifique et tout prêt, qui est là, qui attend la mélodie, c'est vrai que ça repose de ce point de vue-là.
Oui, parce que t'as même pas d'adaptation à faire sur le texte, quoi. Je veux dire, le texte, il est fait, il est
voilà, carré, le texte, il est...
T'as plus qu'à le...
Déjà, tu peux pas même le changer. Enfin, tu vas taper chez Verlaine Rimbaud, Martin Hugo. Bon, encore que Hugo, j'ai fait un travail de sélection. On en avait parlé parce que le texte était très 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 long et moi j'avais quand même envie de raconter l'histoire que ça racontait. Ouais. Et on pouvait la raconter en passant sous silence quelques épisodes de La Légende des Siècles, pour arriver sur la suite scientifiquement, comme on dit.
Bien sûr, un peu comme la strophe pour le souvenir d'Aragon, dont Léo voilà. A fait la fiche rouge, quoi. Hein.
Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de saillant et de... Voilà. Mais bon, par rapport à Léo, c'est vrai que je pense que Mathieu aurait pas apprécié qu'on fasse un travail de section, encore que je me suis permis de le faire pour un morceau.
Ouais.
Prologue, où qui est un extrait d'un texte très long qui s'appelle L'Imaginaire, qui est un autre imaginaire que l'imaginaire que Léo a mis en musique. Donc je suppose que s'il avait fait une musique, il aurait lui-même encore fait évoluer les choses. Hein. Et il y a vraiment un passage de ce texte qui m'a saisi et j'ai eu envie de le mettre en musique. Et quand je l'ai mis en musique, il m'a paru évident qu'il était parfait pour être l'introduction de l'album.
D'accord.
Et c'est le texte que j'utilise également en introduction
du concert
quand je passe à la partie composition. J'ai chanté un ou deux titres peut-être dans la partie piano et je continuerai à faire ça qui sont déjà une composition, qui est déjà une annonce de voilà, j'ai mis en musique des textes de Léo Ferré, j'ai voulu les chanter. Mais après, je trouve intéressant qu'il y a un moment où tout est suivi, voilà, où les textes de Léo s'enchaînent, parce que ça crée un climat particulier, ces textes inédits, qui sont d'ailleurs souvent de la deuxième période, enfin en tout cas, qui ont une cohérence entre eux, et je trouve bien d'enchaîner ces textes-là. Et comme ouverture de ce passage-là, ce morceau prologue, donc ce qui, je précise l'imaginaire citation, c'est une citation, voilà, c'est ça s'assume comme une citation, un passage de cette œuvre-là. Mais sinon, pour le reste, bien sûr, j'ai pas touché une virgule.
Oui, bien sûr.
Des morceaux.
Mais donc une fois que tu as ce poète englué, que tu as un embryon de mélodie, bon, il y a tout le travail ensuite d'orchestration à mener, quoi.
Oui, il y a le premier travail de mise à plat en home studio qui permet de fixer les idées musicales, c'est-à-dire d'arrêter la ligne mélodique. Parce que c'est vrai que quand on fait un premier jet, c'est ce qu'on a écouté, c'est vraiment le premier jet. C'est-à-dire que je n'ai jamais chanté ce texte, je ne l'ai même peut-être pas lu en entier de façon très, très détaillée. Donc je découvre sa structure et j'adapte la mélodie à la structure. Et puis après, il y a le travail d'orchestration. Donc là, c'était assez évident que dès l'idée, c'est un rock. Donc je me fais une première maquette de basse sur un rythme rock, boîte à rythme bête et méchante, voilà,
ouais.
pour bien fixer la mélodie et la structure. Parce que si je respecte complètement le texte, il peut y avoir, comme le fait Léo quand il mettait les poèmes en musique, à un moment donné où il y a une petite adaptation, là en l'occurrence c'est de redonner deux fois la phrase finale pour l'appuyer, parce que c'est le moi poète englué comme une mouche obscène, j'ai crevé un matin en me tapant la scène, et donc cette phrase là elle revient deux fois pour parce que c'est, en plus c'est logique avec la musique, et puis voilà, c'est une, enfin, après c'est le feeling hein,
ouais, bien sûr.
Et puis la musicalité du truc, mais ça c'est les seuls arrangements que j'ai pu faire sur les textes.
Ouais, d'accord.
C'est qu'à un moment donné, il y a une phrase qui apparaît deux fois.
Oui, bon, bah, effectivement.
D'ailleurs, sur l'habitude, voilà, je...
Bah, oui, pour le coup, ouais, voilà,
mais... Donc voilà, la maquette, le home studio, et puis pour le projet, après, j'avais fait écouter la démo à Mathieu,
à
deux, trois personnes de confiance.
Avant même d'envoyer à l'ingé son, avant même de
tout à fait,
à
oui, oui. Déjà, ben, le première idée était de savoir si je serais autorisé à aller plus loin, avant d'engager... Le projet plus loin. Et donc, Mathieu avait pris le temps d'écouter, m'avait fait une restitution morceau par morceau, qui était plutôt encourageante et qui m'a justement permis de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, voilà, je produis alors ce qui peut être soit l'album définitif, soit si on me permet d'aller plus loin, une pré-production de qualité avant d'aller plus loin dans l'enregistrement avec des moyens supplémentaires. Donc j'ai fait appel à Joseph Noya, un ingé son avec qui j'avais déjà travaillé sur les albums précédents, pour faire des travaux alors plus aboutis au niveau sonore.
Bien sûr.
Alors, soit le poète englué, là, je lui envoyais ce que j'avais fait, enregistré avec notamment l'intervention de Jocelyn Sillard à la guitare, qui est un rocker de haut vol, et qui joue avec Daniel Wertheim, qui est à la batterie là sur l'enregistrement. Et donc voilà, donc là c'était enregistré avec des habitués du rock. Et pour d'autres morceaux, je suis resté sur quelque chose de beaucoup plus acoustique, beaucoup plus simple, qui pourrait être refait de façon plus étoffée. Et encore sur d'autres morceaux, là Joseph a été plus loin, il m'a proposé de faire un arrangement qui soit dans le disons qui soit moderne. D'accord. Qui sonne comme ce qu'on peut entendre sur les radios, parce que une des idées bien sûr c'est aussi que cet ex de Léo il frappe les gens, enfin que les gens, ça rapproche des gens qui ne connaissent pas Léo de ces textes de Léo. Et donc les musiques sont là pour mettre en valeur les textes et pour rendre les choses agréables.
Et puis accessibles dans notre époque aussi, quoi.
Et accessibles dans notre époque, quoi. Tout à fait. Un des points, c'est de montrer que Léo est toujours actuel. Que même si les textes sont difficiles, et c'est vrai qu'ils sont quand même un peu difficiles, il y a des mots qu'on ne voit pas tous les jours et qui certainement vont poser problème à certains, et bien. Même avec des textes un peu difficiles, on peut faire une musique, j'espère agréable, qui donne envie d'écouter et qui ramène un public qui ne connaît pas Léo.
Absolument. Ouais, c'est très important. Et c'est vrai que l'apport de Joseph là-dessus est important aussi, bien sûr.
Oui, tout à fait.
On écoute la version, justement, on peut peut-être écouter la version aboutie, enfin la plus aboutie possible, même si c'est pas vraiment encore des versions tout à fait définitives, il y aurait encore du travail à faire dessus.
C'est-à-dire qu'on pourrait toujours refaire ça avec des prises de son en studio, des choses beaucoup plus qui sonnent beaucoup mieux. Tu veux écouter Le Poète Englué, c'est
ouais,
ça
bah ouais,
bah ça c'est enregistré chez moi.
Ah d'accord.
À la maison, ouais, dans mon petit 8 mètres carrés de studio, mon bureau studio. La batterie, c'est une petite batterie MIDI avec Daniel sur son tabouret. Un peu plus tard, Jocelyn est venu sur le tabouret aussi à la guitare.
Tout ça a été enregistré chez toi.
C'était enregistré à la maison. Oui.
Ah,
donc
ouais, d'accord,
oui,
okay.
Forcément, si on va dans un studio avec des amplis, des sons, des machins, on peut faire des choses qui frappent beaucoup plus.
Mais avec les moyens du bord, bah ça donne ça. Quoi.
Ça donne ça. Bah, ouais, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, ouais, bien sûr. Bah on l'écoute la version.
Allons-y.
Poète englué au miel des étalages, je solde l'avenir aux citoyens sans âge. Le barrique d'indulgence, oui, tout le long du ciel. Trente de mètres d'évidence en face, ils ne feront pas mieux. Chrétiens qui vous videz, rechargez vos accus.
Baptiste Foulquier.
J'imagine que les versions sur Radio Libertaire abouties, enfin travaillées par Joseph, tu les as fait écouter à Mathieu également.
Oui, tout à fait.
Il a fait un retour aussi
Tout à fait. Alors, il n'a pas fait le retour aussi précis que la première fois, mais il m'a encouragé à démarcher pour trouver un label, pour diffuser ça de façon plus professionnelle que les autoproductions que j'avais faites avant.
Et où en est ce travail, en passant ?
Alors, aujourd'hui...
Difficile, j'imagine. Hein.
C'est très difficile parce que l'industrie musicale est complètement sinistrée. On sait bien que les disques ne se vendent plus, ou alors certaines niches, ou le rap, voilà, mais que bon, le support physique est en chute libre. Du coup, pour les distributeurs, les maisons de disques, c'est forcément catastrophique. Donc voilà, on va dire que la chanson française ou Léo Ferré, c'est pas forcément ce qu'attendent le plus les maisons de disques. Mais alors dans la sinistrose actuelle, c'est assez compliqué. Donc oui, le démarchage est difficile, mais voilà, j'ai quand même eu un contact encourageant avec une maison de disques, un label.
Très bien.
Et ce qui m'a permis aussi d'avancer dans la compréhension de ce qui était possible et de voir que en fait, il faut arriver à avoir à la fois un disque et des concerts. Même de façon plutôt une tournée, quoi. Donc c'est ce qui m'encourageait aussi à faire mon spectacle et à intégrer donc les reprises et les compos autour de Léo, de faire quelque chose de cohérent. Donc c'est voilà, le travail maintenant c'est prêt, je continuerai à le faire évoluer, mais en tout cas voilà, j'ai matière à aller jouer où je veux pour une soirée conséquente autour de Léo. Reste à rentrer dans le microcosme, dans la boucle, voilà, ouais. des tournées, pour pouvoir lier le disque et les tournées. Bon, ouais. Aujourd'hui, il y a que les gens qui tournent, en fait, pour le dire autrement, hein, qui vendent encore des disques.
D'accord.
Puisque les gens qui vont au spectacle ont souvent envie de garder un souvenir, et puis c'est ce qui fonctionne très bien.
Ouais, absolument. C'est vrai que ça donne envie, quoi. Lorsqu'on voit un artiste sur scène, on a envie ensuite de, comme tu dis, garder un souvenir et puis un petit écho. Et c'est vrai que ça passe par le disque. C'est vrai que c'est facile, mais c'est une sacrée affaire, hein, je pense, de rentrer dans la boucle, de rentrer dans ce milieu.
Oui, parce que
milieu,
bah, le milieu du disque est sinistré, mais le milieu de la scène n'est pas beaucoup mieux.
Ben oui.
Donc voilà.
En plus, le Covid est passé par là il y a quelques temps de cela.
Voilà, ça a fragilisé encore toutes les salles. Les gens ont tendance à se déplacer de moins en moins. C'est vrai aussi pour les salles de cinéma d'ailleurs. Tout ce qui est déplacement. Donc soit les grands événements très très fédérateurs, des très grandes vedettes, notamment internationales. Là, tu vas avoir des choses qui vont amener les gens à se déplacer. Mais sur des choses beaucoup plus de niche, encore une fois, c'est plus difficile.
Ouais, clairement. Mais c'est pour ça qu'on lance un appel, hein, d'ailleurs, hein, à toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui sont intéressés par ta venue, par ta présence lors d'un concert. N'hésite pas à rentrer en contact avec l'émission. On vous transmettra les contacts, le contact de Jean-Baptiste Foulquier, les coordonnées de Jean-Baptiste, sans aucun souci. Hein.
Oui, tout à fait. Je tiens à jouer. Je suis très très heureux de ce répertoire, de ce concert. Je suis persuadé que le public aussi, que ça a un public qui sera très heureux d'écouter ça. Donc je suis prêt à me déplacer. Je vais essayer de me déplacer d'ailleurs en dehors de Paris et de la région parisienne pour aller en province comme ça au contact du public. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je suis partant.
Bien sûr, et puis je pense peut-être tout particulièrement au festival, hein, qui s'occupe de l'œuvre de Léo, qui s'occupe de la mettre en valeur. On leur passe un salut amical.
Tout à fait, hein, tout à fait. Ou les festivals de chansons.
Et
aussi,
puis les festivals de co, absolument, voilà, parce qui sont plus nombreux quand même.
Il y a les événements dédiés à Léo, il y en a de moins en moins, il n'y en a pas assez, c'est clair. Mais je pense que Léo Ferré a sa place dans tous les festivals et dans toutes les salles de concert de France.
De chansons, ouais, et puis ouais. de chansons. Plus particulièrement, mais c'est vrai, mais clairement, et puis c'est... n'hésitez pas donc à organiser des événements, hein, j'ai envie de dire. Et puis je me parle un peu à moi, parce que je me dis, maintenant qu'on est quand même quelques-uns autour du Ferry Club, à arriver avec une petite guitare, avec un petit saxo, avec un petit ceci, avec un petit cela, un jour ou l'autre, on pourrait peut-être s'organiser un concert, non? Qu'est-ce que t'en dis?
Ah, ce serait une bonne idée, ouais.
Faudrait qu'on trouve une salle, faudrait louer une salle, et puis... parce qu'il y avait avant le 14 juillet, jour férié.
Mm-hmm.
Non, le 1er mai, pardon. Le 1er mai, jour férié. Il y a eu ensuite le festival à Gourdon, bah, qui malheureusement a connu un drame, hein, avec la mort de Barbara Veldens. Et puis il reste Paye, donc c'est vrai que le microcosme ferréen, il s'est très très réduit, restreint à Paye, et puis quelques initiatives quand même chez Richard Martin, à qui on passe le bonjour, mais il y a plus... Donc effectivement, au-delà du microcosme ferréen, il y a aussi tous les autres festivals de musique de chansons, qui bah, aussi, hein, probablement rencontrent des difficultés, mais comme tu le dis à l'instant, et j'en ai vraiment le... La conviction, c'est que Léo a toute sa place, le répertoire ferréen a toute sa place dans ces moments-là, y compris dans des versions différentes, des versions modernisées, on va dire.
Oui, c'est vraiment ce que je retire des derniers concerts, où Léo a eu de plus en plus de place dans les concerts. Donc le dernier, c'était entièrement dédié à Léo, celui du mois de novembre était quand même à 50% dédié à Léo Ferré. Et vraiment une adhésion complète du public, une écoute, parce qu'en plus la formule acoustique oblige, enfin permet une écoute, et je dirais presque oblige les gens à écouter, puisque on joue en toute complicité, même si on met de l'énergie, et on peut mettre autant d'énergie en acoustique qu'avec un orchestre de rock. Mais voilà, les gens sont vraiment captés, sans être agressés, et le répertoire de Léo, bah, il fonctionne à merveille sur des gens qui sont pas des amateurs de prime abord. Donc voilà, j'ai grand espoir de pouvoir le présenter. Et c'est une bonne idée de ce que tu as dit, de s'organiser pour faire quelque chose à Paris.
Eh oui, j'y pense, parce que bon, ça va finir par tomber sous le sens. On parlait de tes versions, de tes compositions, et elles interviennent en scène aussi. Mais alors, quand tu es a fortiori tout seul, mais accompagné de Philippe et William, c'est difficile de faire intervenir la batterie, la basse, la guitare électrique, le ceci, le cela, tous ces éléments qui composent finalement tes mises en musique. Donc il y a voilà. Un travail qui s'opère de bascule entre la version aboutie studio et puis la version acoustique. Ça doit pas être si simple, ou peut-être très simple, je sais pas, comment ça se passe?
Alors, ça se passe très bien. Alors déjà, je pense que dans le contexte qu'on vit, qui est pas facile, donc on l'a dit pour la scène, c'est de plus en plus vrai pour plein d'artistes. C'est-à-dire que tu vas faire un disque avec tout un ensemble de compétences que tu assembles. Voilà, alors en l'occurrence, dans mon projet, on n'est pas très nombreux à avoir participé, mais quand tu as un budget, voilà, tu fais intervenir plein de musiciens, et évidemment, c'est très compliqué après de les avoir sur scène, sauf pour les grandes vedettes qui vont dans une très grande salle et qui peuvent se permettre du coup d'avoir un budget important. Donc la plupart des artistes aujourd'hui, et particulièrement dans la chanson, ils font un disque assez arrangé, et après ils vont partir en tournée avec une formule très réduite à quelques musiciens. Parfois dans les grandes salles ils jouent, moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps Romain Didier au Café de la Danse, ils étaient trois sur scène. Et le dernier disque de Romain Didier, il y avait beaucoup plus d'instruments que ça, c'était tout orchestré. Et je suppose que Romain Didier, il va peut-être tourner des fois et être avec un seul musicien ou tout seul au piano, comme il sait faire. Pareil, parce que c'est l'obligation de d'être cohérent avec les capacités des salles, les budgets et tout ça, qui sont de plus en plus tendus aujourd'hui. Donc, moi, c'est la même logique. Et aussi, l'autre logique, c'est que, de toute façon, j'avais envie de faire quelque chose de plus simple au niveau instrumentation et scène. J'ai beaucoup joué avec un groupe de rock derrière moi. C'est plus on est de musiciens et plus c'est compliqué à s'organiser, à répéter, à trouver des moments et tout ça, plus c'est compliqué de gérer le son dans les petites salles.
Oui.
Donc ça aussi, moi je, maintenant, de jouer avec un fort volume et des gens qui sont parfois un peu agressés par le volume et qui n'entendent pas les paroles parce que c'est couvert par la musique, ça je veux plus. Mm-hmm. Donc la formule acoustique, c'est un peu quelque chose qui me permet de retrouver l'essence de la musique, donc les compositions de Léo, bien sûr, les reprises, et puis les musiques que j'ai faites sur les textes, et je tiens à ce qu'on entende vraiment les textes, c'est très, très, très important. Et puis le plaisir d'être sur scène, il est là, même quand t'es tout seul ou quand t'es en formation réduite, surtout quand t'es avec des gens de qualité,
oui,
avec qui tu t'entends très bien, des complices comme ça. Donc alors, techniquement, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait très simplement. Moi, j'arrive avec ma guitare, Philippe avec la sienne, et je lui ai envoyé le morceau. Alors des fois, il a eu le temps de l'écouter, le plus souvent, il n'a pas le temps. Donc on fait ça en direct, il a le texte, il a la grille des accords, je lui joue, et puis je lui dis, voilà, ce morceau-là, par exemple, celui qu'on a écouté tout à l'heure, Tristesse de Paris, Tristesse de Paris, quand je l'ai écrit, pour moi, c'était du blues. C'est-à-dire sur une grille de blues. Donc, voilà, je lui donne la direction. En plus, Philippe, c'est quelqu'un qui vient du blues, donc il connaît ça par cœur. J'avais aucun espèce de doute. Je lui dis, voilà, c'est du blues. Et suivant les inflexions que je vais faire, avec les nuances de forte, que je joue beaucoup en version live, beaucoup plus que sur la première maquette que j'avais faite, il a adapté son jeu à ça, quoi. Et puis c'est le fait de, c'est quand ça se passe bien avec les musiciens, ça se fait comme ça, quoi. Une fois qu'on a rodé, les sensations sont perçues par l'autre et il t'accompagne, il souligne ce que tu fais, il te suit.
Ouais.
Et voilà, donc par exemple, c'est ça, sur Prologue, j'avais un peu réfléchi avant, parce que j'aimais bien ma maquette, mais là je savais qu'avec deux guitares, ça fallait prendre une voix différente.
Ouais.
Donc j'avais pensé à quelque chose d'un peu flamenco, et parce que je savais que Philippe aussi, il avait travaillé ça, un peu ce style-là au conservatoire, et il a été, il m'a suivi là-dessus, voilà.
D'accord.
Ou pour un autre morceau qu'on a fait au concert, là, qui était une première, c'était Adieu, qui est un morceau assez difficile à chanter, qui a été certainement la compo la plus difficile à mettre en place, puisque c'est des vers libres.
Oui.
Alors, y a aussi un plaisir à mettre en musique des poèmes classiques ou de format classique, parce que quand tu as une rythmique super efficace, avec des mots qui sonnent, des trucs qui naturellement, même en les disant, ça sonne, c'est parfait, mettre en musique, il y a une grande partie du boulot qui est fait.
Le rythme est là,
et puis forcément ta musique, la musique c'est une boucle, c'est une boucle harmonique qui revient, et t'as cette récurrence aussi dans le texte. Donc c'est impeccable. Par contre, Adieu est un texte en vers libre, donc, et suivant les moments, il va y avoir pas beaucoup de texte ou une phrase très longue avec énormément de pieds. Donc quand tu es sur une boucle musicale, moi quand je l'ai chanté, j'avais trouvé une suite d'harmonie qui me plaisait bien, que je trouvais jolie, et je me suis dit, ah tiens, ce texte, ça qui est assez mélancolique, ça pourrait le faire. Et il a fallu que j'adapte ma mélodie pour que j'arrive à placer tous les changements de rythme du texte sur la musique. Et c'était alors globalement, assez vite, j'ai trouvé le truc qui me plaisait, mais là, justement, pour faire en sorte que sur tout le texte, la mélodie soit bien en phase, ça a été assez, assez compliqué. Enfin, du travail de dentelle. Et qui fait que la mélodie évolue tout le long du morceau, quoi. Elle change, il y a des choses qui reviennent, et puis par moment, il faut trouver autre chose pour que ça colle avec le texte. Donc c'est très intéressant, mais c'était un des plus difficiles à mettre en musique. Et sur Adieu, j'avais déjà une petite idée, et après c'était à Philippe de la concrétiser. J'ai pensé à une chanson de Gainsbourg que j'aime bien, je suis venu te dire que je m'en vais, avec un système d'arpèges, là, qui fonctionne, et j'ai pensé à ça par rapport à l'atmosphère de ce morceau. La maquette qu'a produit Jo en studio est totalement différente, mais Voilà, moi j'avais cette idée-là pour la partie acoustique. Et ce que je ne pouvais pas faire à la place de Philippe, c'était savoir quel était le doigté, quel était l'arpège qui allait lui plaire. Donc il a travaillé ça, il a en direct, voilà. Je lui dis, tiens, tu devrais essayer telle piste, toi, un arpège style... Et puis il tricote, et il cherche les accords, jusqu'à ce qu'il trouve le bon feeling. Et puis c'était assez vite.
Ça, il le fait chez lui, en amont.
Non, ça on l'a fait en direct, en studio.
Mais en
répétition, oui.
Ouais, d'accord, ouais. Voilà, on répète. Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais envie qu'on s'écoute une petite chanson de Léo, là, comme ça, en passant?
Ah bah, si tu veux, tu sais que je suis assez obsédé, du coup, par les versions piano-voix. Et notamment, alors en plus, par les chansons que je suis en train de travailler. Et il y en a une que je suis en train de travailler, c'est La vie antérieure.
D'accord.
Et là, je pense à, non pas à la version de 57, là, mais la version du 2 jazzé.
D'accord, TLP, d'accord.
Bah je ne peux plus te dire quelle année, mais c'est dans le coffret.
Charles Baudelaire, La vie antérieure.
J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques. Les des cieux mêlés d'une façon solennelle et mystique les tout puissants accords de leur riche musique au soleil du couchant reflété par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur des vagues des splendeurs et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front. Avec des palmes, et dont l'unique soin était approfondi le secret douloureux qui me faisait languir. Que leurs grands piliers, droits et majestueux, rendaient pareil le soir aux grottes basaltiques.
Jean-Baptiste Fouquet.
Dans... Club sur Radio Libertaire.
Lorsque je suis arrivé, lorsqu'on s'est retrouvé dans le studio, là, tu m'as dit, t'avoues, je suis sur tel autre projet, tel autre truc, je suis en train de bosser celle-ci, celle-ça. T'arrêtes pas de travailler, en fait, quoi.
C'est vrai que ça fait beaucoup parce que je continue à écrire mes chansons.
Ah, quand
ça,
même, ouais.
Ça, j'abandonne pas.
Oui, oui, c'est oui. Vrai, en fait, tiens.
Je travaille aussi avec un autre musicien que je salue, qui s'appelle Bernard, qui est un musicien qui est professionnel, qui a beaucoup joué, et qui écrit des musiques sur mes textes. Donc, je lui soumets des textes, et puis il compose des musiques, souvent des textes qui, à l'origine, était sur une musique que j'avais composée, mais une musique, voilà, en écoutant, j'ai fait une sélection, et je trouve que le texte est plus intéressant que la musique. Et je lui ai envoyé une cinquantaine de textes, et donc régulièrement, il m'envoie une musique, il me dit, voilà, j'ai, sur tel texte, j'ai trouvé ça. Donc là, ça me demande un peu de travail aussi, parce que du coup, je pose la voix, lui, il n'est pas chanteur, et donc je chante mon texte sur sa musique, ouais. Et puis souvent, j'adapte mon texte, parce que je trouve que sur sa musique, j'ai envie de raconter les choses autrement, voilà, et puis, donc ça me prend aussi un peu de temps, mais c'est l'opposé, en fait, du travail sur Léo. C'est-à-dire que là, je ne suis pas compositeur, mais je fournis un texte et quelqu'un fait ce travail sur mon texte. C'est tout à fait le contraire, c'est tout à fait intéressant justement. Ouais. Toi, c'est une nouvelle expérience et ça qui est passionnant, c'est d'avoir des expériences différentes. Et dans le spectacle de Léo, c'est ça, c'est d'avoir à la fois des compositions vraiment où là, je fais un travail de création et puis une autre forme de création qui est l'interprétation en faisant quand même des choses à ma sauce. Ouais, au piano et voilà une adaptation, des fois un arrangement un peu différent, j'irais même presque forcément différent, puisque si je me colle trop à la version de Léo, ça fonctionne pas. Ouais, il faut que je que
ça,
j'adapte,
j'ai pas de singer, bien sûr.
Voilà, ni de singer, puis il faut surtout être soi-même, en fait. C'est aussi ce que j'ai sorti des concerts et puis je pense des témoignages des gens, c'est que en étant vraiment soi-même comme on est dans ses chansons ou dans celles de Léo, ben voilà, c'est ça qui fait la cohérence et qui fait le fil rouge, et que les gens, ça, tu passes de l'un à l'autre sans heurts, sans problème.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça la proposition que je fais, en fait, c'est aux gens, c'est ma vision, mon interprétation des chansons de Léo.
Alors, t'as déjà bossé sur une quarantaine de reprises à peu près, hein, une trentaine, une quarantaine,
sans
facilement.
Sans,
hein,
doute pas loin. Ouais, ouais.
C'est ce que tu nous avais dit, à peu près une quarantaine, je crois. Et puis, si j'ai bien compris, il y en a encore une petite dizaine qui est en train de maturer dans un coin.
Comme toi, j'aime bien les listes. Alors, je m'étais fait une liste de toutes les chansons que j'avais envie de reprendre, et puis il y a aussi d'autres personnes qui m'ont dit, ah bah tiens, faudrait essayer un tel ou un tel, voilà, donc je...
T'accompagnes ? Qui est-ce qui a pu te solliciter sur tel ou tel texte ?
Ah, par exemple, François André, toi, qui m'avait dit, ah, je vous verrai bien dans tel ou tel, tel morceau, et donc je les ai...
Lesquels, par exemple ? C'est du coup, ça a eu ma curiosité, tu ne sais pas en particulier.
Je me souviens plus précisément, je crois qu'il m'avait parlé de l'Opéra du Ciel.
Ah ouais, ouais, d'accord.
Mais que je n'ai pas commencé à travailler, que j'ai mis dans ma liste de courses, dans le travail à faire.
Dans le prospect.
Et qui est visiblement un morceau assez compliqué à chanter, parce qu'il y a des grandes différences de notes entre les notes les plus basses. C'est un registre vocal très étendu, et je pense que c'est un morceau qui n'est pas facile à chanter. Alors, est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que Léo ne l'a pas beaucoup chanté ? Parce que c'est quand même un très beau morceau dans ses premières années, mais il l'a pas beaucoup chanté. Je crois qu'il l'a pas enregistré en studio non plus.
Exact, c'est vrai.
Donc, est-ce que la difficulté technique du morceau y est pour quelque chose ? Je sais pas.
Enfin voilà, il y a quelques-unes qui sont encore en préparation. Il y en a qui sont déjà abouties, et donc en fait, tu n'arrêtes pas, quoi. En fait.
Oui, je travaille une petite dizaine de morceaux là actuellement. C'est au gré de mes disponibilités. Et donc c'est toujours un plaisir, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on passe de l'autre côté du miroir, on découvre de l'intérieur un morceau qu'on aime en tant qu'auditeur, et en même temps il y a cette partie création, de trouver l'interprétation qui va bien, le travail sur le piano qui me porte énormément de choses aussi en termes de piano, quoi, de,
bien sûr, voilà, bien sûr, j'imagine, ouais. Bah, ça fait bosser, hein.
Ça fait bosser, ouais.
Ouais, clairement, quoi. Bon, bah, on va se quitter gentiment. On va se quitter, alors. Je te laisse le choix. Je vais te proposer qu'on termine avec une chanson de Léo. Mais si tu veux qu'on termine avec une de tes chansons, ça peut être pas mal. Et alors, encore mieux. Parce que t'as ta guitare à côté. Peut-être qu'on pourrait peut-être finir avec une petite.
Est-ce que tu veux qu'on fasse comme un roseau?
Ah, je te laisse libre. Là, je te laisse pleine liberté. Bon, mais écoute, si tu veux t'emparer de ta guitare et nous faire un truc, alors là, c'est,
ah bah
c'est
écoute, le kiff. On parlait de comme un roseau, alors allons-y. Voyons ce que je vais présenter à Philippe pour voir si ça lui parle.
Tiens, prends ta guitare et puis on se dit au revoir après ton interprétation, si tu veux bien.
Bon, alors, j'y vais quand je veux. J'ai même pas besoin de faire 3-4, je suis tout seul.
Le cours auprès du chêne et du courroux, comme un drapeau qui flotte et prie pour la raison et la patrie, comme un oiseau qui crie là-bas, le devenir du chasseur là, comme un devoir qui s'évertue à ne trouver que la vertu, comme un silence dans le cœur, quand agonise le bonheur, comme un palais qui se détruit sous l'érosion et sous l'ennui, comme un prêtre qui vague dans les sentiers. Chagrin qui n'en peut plus, je suis un homme et rien de plus. Là, comme un drapeau qui flotte et prie pour la raison et la patrie, comme un silence dans le cœur quand agonise le bonheur, comme un palais qui se détruit sous l'érosion et sous l'ennui, comme un chagrin qui n'en peut plus, je suis un homme et rien de plus. Je suis un homme et rien de plus.
Jean-Baptiste Foulquier, merci.
Merci à vous.
Chouette. Bah voilà, comme un roseau, pour finir, un avant-goût de ce qu'on va entendre vendredi soir. Je vais le rappeler de manière plus formelle cette fois-ci. Vendredi soir, nous serons au Danube Palace Café, qui se trouve 12 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement de Paris, au métro Danube sur la ligne 7 bis et au métro Ourcq sur la ligne 5, le Danube Palace Café. C'est un concert de Capricorne, Jean-Baptiste Foulquier, qui a lieu donc après-demain, vendredi, nous serons le 9 juin, à 20h30. On se dit au revoir, je te remercie pour le temps que tu as accordé à l'émission encore une fois, vachement sympa.
Merci à vous pour ton
beaucoup.
Soutien et pour ces moments d'échange qui sont toujours super agréables.
Et puis comme on a vachement tardé, choisis-nous une chanson de Léo pour finir, tiens.
Allez. Je vais choisir une chanson qui n'est pas sur ma liste, mais tu vas la passer, ça tombe, je crois que je vais la rajouter sur ma liste.
Vas-y.
Il y a des chances. C'est encore une version piano-voix, parce que c'est ce qui m'habite aujourd'hui. Et je trouve vraiment que Léo, au piano-voix, c'est extraordinaire. Et c'est Les Cloches et la Tzigane.
Ah, d'accord, très bien.
Au De Jazé.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
Merci à toi, Davout. Merci à tous.
À très bientôt.
De Guillaume Apollinaire, Les Cloches et la Tzigane.
Mon beau Tzigane, mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vus de personne. mais nous étions bien mal cachés. Toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain, Cyprien et Henri, Marie-Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis Gertrude, ma cousine, souriront quand je passerai. Je ne saurai plus où me mettre, tu seras loin, je pleurerai. J'en mourrai, peut-être. La tzigane savait d'avance nos deux vies barrées par les nuits. Nous lui dîmes adieu, et puis de ce puits sortit l'espérance. L'amour lourd comme un ours privé dansa debout quand nous voulûmes, et l'oiseau bleu perdit ses plumes, et les mendiants leurs avaient. On sait très bien que l'on se damne, mais l'espoir d'aimer en chemin nous fait penser main dans la main à ce qu'a prédit la tzigane.
C'est la fin du Ferré Club
sur Radio Libertaire.
La semaine prochaine,
c'est déjà de vous revoir.
Disparant. servis par des vierges féroces. Les arbres sont des messagers venus d'un royaume étranger. Et les nuages sont les songes des octopus et des éponges. Le ciel est un orchestre blanc aux vacarmes assourdissants. Le ciel est un orchestre noir allumant les amours d'un soir. La nuit est une femme à barbe. Venue disparant ou de tombe. La nuit est une femme à barbe.
Première hirondelle, l'estafette des renouveaux, déchirant de ses fins ciseaux le rideau des brumes et du gel. J'attends les notes et les mots, ceux qui se poseront peut-être sur cet arbre en moi de renaître. Ce sont d'outre-moi les oiseaux. J'attends l'esquisse d'un sourire, dans l'air une onde bleue qui passe, une trouée d'azur fugace dans les ciels noirs de l'avenir. J'attends la montée des couleurs, de branche en branche l'écureuil, sur la planète feuille à feuille, la floraison des jours meilleurs. J'attends même, n'y croyant guère, la fin des fracas et des transes, dans l'orphéon de nos démences, dernier tango des va-t-en-guerre. J'attends un signe de la main, et la main posée sur l'épaule, que l'aile de l'amour nous frôle. Ange insoumis des grands chemins, J'attends parfois comme un navire sur le quai de la solitude, pavillon noir des mers du sud, lourd de tout l'or des souvenirs. Et puis j'attends l'instant fatal où vont se rompre les amarres, qui viendra mettre péremptoire à ma chanson le point final.
Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle, femme impure, l'ennui rend ton âme cruelle. Pour exercer tes dents à ce jeu singulier, il te faut chaque jour un cœur au râtelier. Tes yeux illuminés ainsi que des boutiques, des gifs flamboyants dans les fêtes publiques, usent insolemment d'un pouvoir emprunté, sans connaître jamais la loi de leur beauté. Machine aveugle et sourde en cruauté féconde, salutaire instrument, buveur du sang du monde. Comment n'as-tu pas honte et comment n'as-tu pas devant tous les miroirs vu pâlir tes appâts la grandeur de ce mal où tu te crois savante. Ne t'as donc jamais fait reculer d'épouvante quand la nature, grand dans ses desseins cachés, de toi se sert aux femmes, aux reines des péchés, de toi, vil animal, pour pétrir un génie. Ô fangeuse grandeur sublime ignominie,
secret heart and I.